Thomas More était un humaniste anglais du XVIe siècle, surtout connu pour son œuvre intitulée Utopia, dans laquelle il décrit une société idéale. Il était également juriste, homme d'État et chancelier sous le règne d'Henri VIII. Il est surtout connu pour sa résistance à la rupture de l'Église d'Angleterre, ce qui lui a valu d'être exécuté en 1535. Thomas More est reconnu comme saint par l'Église catholique en 1935. Cela souligne son engagement moral et spirituel qui a marqué l'histoire. Bonjour Gérard Crozat.
Bonjour.
Alors Gérard Crozat, on a la grande joie d'être en interview téléphone avec Marie-Claire Philippot et Hubert Baudet. Marie-Claire, vous êtes présidente de l'association Les Amis de Thomas More. Hubert, vous en êtes le trésorier secrétaire. Alors on est là pour parler de la lettre apostolique pour la proclamation de Saint Thomas More publiée il y a 25 ans. Alors peut-être Hubert, je vais vous laisser un petit peu mieux présenter votre épouse Marie-Claire et ensuite donc on parlera de cette lettre apostolique. Hubert.
Oui, bonjour. Je veux vous présenter Marie-Claire, non pas en tant que mon épouse, mais en tant que principal opérateur, je dirais, français sur Thomas More. Elle a fait des études supérieures importantes, elle est agrégée, elle est docteur en lettres, et elle a été introduite par un homme qui est très chéri entre nous, qui a créé notre association, qui est le père Germain Maradour, et qui est un breton qui avait un poste important à l'université catholique d'Angers. Parallèlement à l'activité française, nous avons, en tant qu'amici Thomas et Maury, un rôle important dans le monde entier, car nous avons 200 ou 300 grands chercheurs qui se sont attachés à la personnalité de Thomas More, soutenu bien entendu par le Vatican, où Germain Maradour et ses proches ont été reçus par le pape Jean-Paul II à l'époque, et depuis, eh bien, Marie-Claire fait des voyages assez nombreux tous les ans. Elle part en Amérique, elle part à Berlin, à Strasbourg, à Londres, bien sûr, elle est le lien principal dans notre association.
Les Amis de Thomas More, vous pouvez nous le dire en latin peut-être, Gérard ?
Amici Thomae Mori.
Voilà, donc dont Marie-Claire Philippot est la présidente et son mari Hubert Baudet est le trésorier. Marie-Claire, peut-être vous allez nous présenter Thomas More, parce qu'il a été canonisé, je crois, il y a 90 ans à peu près. Qui était-il, ce Thomas More ?
Eh bien, Thomas More, oui, était un homme d'une culture immense, qui s'intéressait beaucoup, comme tous les humanistes de son époque, qui était arrivé jusqu'en Angleterre, après avoir été surtout des Italiens, qui s'intéressait beaucoup à la recherche des manuscrits anciens, originaux, des pères et des Grecs et des Latins. Donc il avait un appétit énorme pour la culture antique, ainsi que pour les pères de l'Église. Et certainement, et en plus de ça, une foi à toute épreuve, hein, comme on a pu voir, puisqu'il est mort pour sa foi. Et alors Thomas More, en plus de cette culture, était quelqu'un qui avait vraiment envie de réformer les choses. Réformer l'Église aussi, parce qu'il trouvait que justement, il y avait un manque de morale dans le clergé, un manque de sincérité dans la foi, trop de rites et pas assez d'authenticité. Il était très à l'écoute des malheurs sociaux, des injustices. Et comme il avait fait des études de droit à la suite de son père, eh bien, tout naturellement, il avait envie d'aider les plus pauvres et de réformer justement la société. Quand il a écrit l'Utopie, il a écrit ce qu'il pensait être une simple fantaisie, où justement, pour une fois, il y aurait un monde merveilleux où les gens seraient assez à fois écouter l'autorité, mais l'autorité aurait été bienveillante et que on aurait assuré l'égalité de tout le monde. Donc son utopie était vraiment un rêve d'une société parfaite. Mais il a toujours dit que ça s'appelait utopie, c'est-à-dire que ça n'existait nulle part, ou propose voulant dire nulle part. Donc pour lui, c'était quelque chose qui le faisait sourire. D'autres l'ont pris au pied de la lettre. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le milieu culturel, il est plus connu pour son utopie. Il a écrite en 1516. que pour tous les écrits qu'il a écrits après, qui ont été nombreux et qui se sont attaqués aux luthériens qui, à partir de 1517, commençaient, sont venus en force montrer qu'il y avait une autre façon, je dirais, d'aimer Dieu sans le pape. Alors, lui était fidèle au pape, il pensait que ça, c'était très important, de, justement, cette filiation, cette unité de l'Église. Il a tout fait pour essayer de garder l'unité de l'Église par son action, par ses écrits aussi. Et quand le roi Henri VIII, son souverain, a voulu prendre le contrôle de l'Église, ben là, il n'a pas été d'accord, parce que pour lui, c'était le désordre, et puis c'était la fin de l'unité de l'Église. Donc il a résisté, et ça l'a emmené en prison et à l'échafaud.
Il a gardé sa fidélité à Dieu et non pas au roi.
Exactement, oui, c'est ça. C'était très important pour lui, c'est ce qu'il a dit à l'échafaud. Je meurs, parce qu'il fallait, l'obéissance au souverain était un... Ce n'est pas certainement comme aujourd'hui, c'était quelque chose de fondamental, c'était une vertu capitale. Donc l'obéissance, il a dit je meurs, bon sujet de mon souverain, et de Dieu premièrement. Il n'a pas dit mais et de Dieu premièrement. Et alors après, on a beaucoup ergoté, discuté sur ce qu'il voulait dire. Est-ce que quand même, il aurait dû dire d'abord parler de Dieu. Mais bon, voilà, c'est deux choses.
Ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il était très lié à son roi. Comme Becket était très lié à son roi aussi, Thomas Becket, c'est deux Thomas.
Ils ont eu les mêmes désaccords. Ils s'appelaient Thomas tous les deux, mais Thomas Becket ne voulait pas que le roi prenne la main sur l'Église. C'était la même chose. Thomas More n'a jamais voulu non plus céder. Penser que le roi devenait tout d'un coup un pape, c'était pas possible pour lui. C'était une déviance insoutenable. Bon, ben, tous les deux en ont payé le prix. Oui. Très intéressant de comparer Thomas Becket et Thomas More.
Cette lettre qui a été écrite le 31 octobre 2000, dans la lettre apostolique de Jean-Paul II, présente Saint Thomas More comme le patron des responsables de gouvernement et des hommes politiques. Et cela va se faire pendant le pèlerinage des hommes politiques à Lourdes. Pourquoi l'a-t-il nommé patron des responsables de gouvernement et des hommes politiques, à votre avis ?
Bien, je pense que, d'abord, j'ai essayé de penser au mot subsidiarité, en voyant que chacun devait garder son rôle dans une société, même parmi les autorités compétentes. Chacun est compétent dans sa sphère et pas au-delà, mais quand même entièrement dans sa sphère. Et alors Thomas More, quand il est arrivé en 1523 comme président de la Chambre des communes à Londres, a justement fait un discours retentissant et très très novateur, demandant au roi la possibilité, le droit pour chaque parlementaire de s'exprimer exactement comme il le souhaitait. Il a demandé la liberté d'expression, ce qui n'était pas du tout acquis à l'époque, puisque si même au Parlement, on disait des choses qui ne plaisaient pas au roi, le roi pouvait vous arrêter, vous mettre en prison, vous exécuter. Donc Thomas More s'est assuré que quand même dans la chambre, on pouvait parler, on pouvait discuter pour faire avancer les choses pour le pays. Et donc ça, il l'a obtenu, ça a été vraiment salué. Le roi a promis qu'effectivement, il laisserait tout le monde parler et qu'il ne tiendrait pas rigueur de tout ce qui avait été dit à ce moment-là. Et puis bon, les choses se sont dégradées par la suite, mais tout de même, ça avait été un acte très fort, ça. Et ça, en 2023, on a célébré au Parlement de Strasbourg les 500 ans de ce discours, en disant quand même que ça avait été remarquable de demander la liberté d'expression pour les parlementaires. C'est là que je vois que c'était quand même un dirigeant qui avait conscience de la place de chacun, quoi. Et puis après, il a accepté, on dit contre sa volonté, Erasme le dit, parce qu'il aurait aimé aussi avoir un ami qui ne se mêle pas trop des affaires d'État. Mais Thomas More avait quand même l'ambition de servir à quelque chose, d'être actif. Et donc, il a accepté d'être chancelier, conseiller du roi, et qui était son ami. Hein. Ils passaient des soirées ensemble, notamment à faire de l'astronomie, à faire de la théologie, etc. Il s'entendait fort bien. Il a accepté d'être son conseiller, il a accepté d'être son chancelier. C'est la première fois qu'un chancelier qui a le rôle de premier ministre, en fait, dans le royaume anglais, la première fois que c'était un laïc. Et je pense que le roi en avait aussi assez, peut-être, des prélats. Bref, premier laïc à être chancelier, mais évidemment, le roi espérait l'avoir à sa botte et puis lui faire faire tout ce qu'il voulait. Et là, ça n'a pas marché, puisque More a quand même tenu son rôle, mais son rôle de chrétien, son rôle de fervent catholique qui croyait à l'unité de l'Église, et donc il n'a jamais accepté que son souverain prenne le rôle du pape, quoi, devienne le chef de l'Église catholique d'Angleterre. C'était ça, au départ, ce que voulait Henri VIII. Il n'a jamais pensé au mot protestant, ça n'existait pas à l'époque.
Thomas More considérait le roi un petit peu comme... Enfin, le roi, pardon, Henri VIII, le considérait un petit peu comme son grand frère, parce qu'il y avait un écart d'âge de 10 ans de plus. Donc, c'était même un petit peu un modèle.
Sûrement, oui, oui. Henri VIII avait vraiment envie que Thomas More le soutienne, l'approuve dans les milieux en dehors, parce que si Thomas More disait oui, ben il pensait que tout le reste des parlementaires et des nobles diraient oui aussi. Donc il était vraiment essentiel pour Henri VIII d'avoir le soutien de More. More était une valeur morale, un modèle, une autorité morale dans son pays. On savait qu'il était intègre, qu'il était savant, qu'il avait une mémoire extraordinaire, il se rappelait, il pouvait citer l'Évangile, les pères de l'Église, c'était assez extraordinaire ça. Il l'a fait d'ailleurs dans sa cellule, il n'avait plus les livres, mais il citait, bon bien sûr, les mots divergent un peu, mais justement c'est là qu'on voit que ça reposait sur sa mémoire. Et donc cette autorité intellectuelle et morale avait une grande force, et il a gardé sa conscience, c'est ça, ce qu'on lui remarque aussi dans le monde politique, et il avait une conscience morale, il défendait contre tout parce qu'il savait, s'il accommodait sa conscience au rythme des modes et des politiques, c'était l'enfer qui le guettait, c'était ça, et il le redit souvent. Et donc, il voulait assurer l'au-delà et sa vie après la mort, c'est sûr, il y croyait être fermement.
Oui, juste une citation du pape Jean-Paul II dans sa déclaration, dans sa proclamation où il écrit « Thomas More illustre clairement une vérité fondamentale de l'éthique politique. En effet, la défense de la liberté de l'Église contre les ingérences indues de l'État est en même temps défense au nom de la primauté de la conscience, de la liberté de la personne par rapport au pouvoir politique. »
Tout à fait, ah oui. Ah oui, c'est bien dit, bien vu.
Si vous deviez recommander un livre de Thomas More, moi ce serait De Tristia Christi, mais je ne suis pas sûr que...
De Tristia Christi, oui, c'est un livre qui parle de la passion du Christ, qui a été fort bien traduit, oui, par mon professeur de linguistique à Angers, je me souviens.
Ah bon?
Oui, c'est Henri Gibault. Et qui, à la fois, More évoque la tristesse du Christ au moment où il est lâché par ses disciples, par les apôtres qui s'endorment alors que lui souffre sa grande passion, au moins psychologique au départ. Mais en même temps, en faisant cela, Thomas More, il montre aussi le rôle des évêques anglais qui ont tous abdiqué devant le roi, sauf un ou deux, notamment John Fisher, son ami. Et donc, il les compare à ces apôtres qui ne savent que s'endormir, que penser au plaisir immédiat au lieu de suivre le Christ. C'est un bon livre. Moi, personnellement, j'aurais recommandé plutôt le Dialogue du réconfort, qui est un dialogue assez long à lire, mais en plusieurs livres, et on peut lire juste des extraits, on est toujours tout à fait inspiré, et ça aide bien à méditer. Un dialogue entre un vieil homme et son neveu. Le vieil homme sait qu'il va mourir, le neveu dit « mais t'as pas peur de la mort, tonton ?» C'est un peu ça. Et l'autre lui explique à quel point il faut vaincre cette peur de la mort, à quel point il faut vivre en pensant à cela. Mais en plus, c'est émaillé de bons mots, c'est très bien écrit. C'est, parmi les livres de mort, certains ont été écrits à la va-vite, celui-ci a été bien pensé. Donc il est remarquable, il a été traduit par Lago Marado chez Brépol. Vraiment, c'est un livre à recommander. Je le recommanderais d'autant plus qu'un des grands spécialistes de Thomas More en Angleterre, qui s'appelait Dominic Baker Smith, au moment de mourir, justement, il m'avait écrit en disant que, eh bien, non, il n'allait pas venir à notre colloque comme il le souhaitait, comme on l'avait invité. Mais il continuait de lire le Dialogue du réconfort à nouveau, parce que ça l'aidait vraiment, quelques mois avant sa mort. Et il disait pourquoi, et c'était extrêmement touchant, cette histoire. Et après, un autre ami à lui nous a écrit tout ce qu'il lui avait confié, justement, et qu'il avait trouvé dans ce Dialogue du réconfort. Donc franchement, ça m'a conforté aussi, sans jeu de mots, dans le fait que c'était vraiment une œuvre remarquable que More a écrite en prison, donc il a écrit aussi sachant que sa mort était proche. Et elle est pleine d'humanité, puis pleine de bonnes histoires. Oui, il n'était pas triste de partir, hein, parce qu'il savait que c'était le paradis après. C'est plein d'espérance, c'est sûr. Oui.
Puis s'il y avait un livre sur Thomas More, je recommanderais le livre d'une certaine Marie-Claire Philippot, Hein, ce
qui
a été imprimé, qui a été tiré, il y a combien, il y a...
Si c'est la biographie, c'est en 2016.
Oui,
c'est ça. Pour les 500 ans de l'utopie.
Voilà, c'est ça. Qu'on peut trouver dans le commerce, bien sûr, et qui est passionnant.
Voilà.
Et qui coûte pas cher.
Un grand merci, Marie-Claire Philippot, pour tout cet éclairage sur Thomas More. Donc, je rappelle la lettre apostolique, donc, pour la proclamation de Saint Thomas More, qui a été écrit il y a 25 ans. C'est le patron des responsables de gouvernement et des hommes politiques. On peut quand même bien le prier.
Oui, on peut le prier. Je remercie aussi Hubert, qui est le rédacteur de la Gazette, que nous recevons régulièrement et qui a de très bons articles et de très bonnes informations. Et ça lui demande certainement beaucoup de travail. Il ne le dira pas, mais ça lui demande beaucoup de travail.
Si, ah bon. Mais pas un travail difficile, c'est une passion.
Ah
donc,
bon.
Et
on peut aller sur le site aussi. Il y a le site.
Tout à fait. Tous les jours, il est mis à jour parce que ce site est fait sur le projet qu'avait Père Germain Maradoux, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'univers de Thomas More et qui reprend année par année, pratiquement jour par jour, en tout cas mois par mois, tout ce qui s'est passé dans l'univers qui entourait Thomas More entre le 1478, la naissance de Thomas More, et 1535, sa décapitation.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci Marie-Claire et merci Hubert donc pour tout votre travail qui nous a bien permis de mieux connaître Thomas More. Merci beaucoup.
Merci.